Bonsoir à tous. La garde des Sceaux tire les leçons de l'évasion de Redouane Saïd. Nicole Belloubet en profite pour lancer une réorganisation des services pénitentiaires. Nous retrouverons Camille Magnard en direct du Palais de Justice. La disparition du MH370 de la Malaysian Airlines, le rapport final n'explique rien de ce mystère, mais entr'ouvre l'hypothèse d'une intervention extérieure. C'est ce que retient Florence de Changy, auteur d'un livre sur la question. La corne de l'Afrique entre-t-elle dans une phase de réconciliation? L'Érythrée et la Somalie rétablissent leurs relations diplomatiques. Analyse de Roland Marchal, chargé de recherche au CNRS et directeur de la revue Politique Africaine. La colère des taxis espagnols contre les VTC, véhicules de location avec chauffeur, elle monte en puissance. Nous retrouverons en direct de Madrid Marie-Hélène Ballesteros. Enfin, des vers microscopiques vieux de 4500 ans, ressuscités par des chercheurs américains et russes, réveillés après un long sommeil sibérien. Ils ont, paraît-il, très bon appétit. Elie Abergel nous racontera cette histoire en fin de journal. L'actualité a parfois du talent, souvent même. Deux détenus de la prison de Colmar se sont fait la belle cette nuit, et cela quelques heures seulement avant que la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, présente le rapport sur l'évasion spectaculaire en hélicoptère de Redouane Saïd de la maison d'arrêt de Réau en Seine-et-Marne. C'était le 1er juillet dernier. Nicole Belloubet a parlé tout à l'heure de conjonction de failles de sécurité. Des conclusions qui ne pointent pas de responsabilité claire ni de manquement grave dans la prison de Seine-et-Marne. Bonsoir Camille Magnard, vous êtes en direct du Palais de Justice. Mais tout cela a conduit Nicole Belloubet à annoncer une réorganisation de l'administration pénitentiaire.
Oui, Ezekiel, après cet électrochoc qu'a été l'évasion de Redouane Saïd, toute l'administration pénitentiaire est appelée à tirer des enseignements de fond, à combler les failles mises à jour par l'évasion. Et la garde des Sceaux axe sa réponse sur la critique d'un système pénitentiaire, selon elle, trop attaché à la doctrine, à la norme du droit, et pas assez en lien, en tout cas, avec la réalité du terrain. Par exemple, Redouane Saïd était détenu à la maison d'arrêt de Réau, sous statut de prévenu et non de condamné, car il était en attente de deux décisions d'appel et d'une de cassation le concernant. La ministre veut qu'à l'avenir, les détenus comme lui, issus de la très grande criminalité et à fort potentiel d'évasion, soient affectés à des établissements, non plus seulement en fonction de leur statut judiciaire prévenu ou condamné, mais de leur dangerosité. Alors pas question d'en finir pour autant avec la distinction fondamentale entre maison d'arrêt et centre de détention, mais il s'agira de définir une trentaine de prisons très sécurisées, capables de contenir ces détenus à fort risque d'évasion. Ce principe, il sera ajouté au projet de loi générale sur la justice qui doit être présenté au mois d'octobre. Nicole Belloubet annonce aussi une réorganisation de l'administration centrale pénitentiaire jugée insuffisamment réactive, trop éloignée du terrain là encore. Il s'agira d'y intégrer non plus seulement des technocrates mais des cadres qui auront déjà l'expérience de la réalité en prison. Enfin, la garde des Sceaux annonce un renforcement des services de renseignement pénitentiaire pour mieux repérer et prévenir les risques d'évasion. C'était une priorité, ça doit le redevenir, dit la ministre qui reconnaît entre les lignes que ces moyens de renseignement en prison ont sans doute trop été concentrés ces derniers mois sur la détection de la radicalisation islamiste des détenus.
Merci beaucoup Camille Magnard pour toutes ces précisions. Et puis à propos de la double évasion de la nuit dernière à la prison de Colmar, le mode opératoire par le plafond est le même que celui d'une triple évasion survenue la nuit de la Saint-Sylvestre, c'était en 2012, dans le même établissement. Les syndicats pénitentiaires mettent en cause la vétusté des locaux, les conditions de détention et aussi les conditions de travail des gardiens de prison. Le mystère demeure. Celui de la disparition du vol MH370, le Boeing de la Malaysia Airlines, évaporé le 8 mai 2014 en provenance de Pékin, direction Kuala Lumpur, avec 239 personnes à bord. Les autorités malaisiennes ont rendu public aujourd'hui le rapport d'enquête, près de 500 pages, pour conclure que la cause de la disparition de l'appareil reste inconnue. La réponse ne sera possible que si l'on retrouve l'épave, écrivent les enquêteurs. Florence de Changy, journaliste et auteur d'un livre sur ce mystère, retient toutefois que le rapport n'exclut pas l'hypothèse d'une intervention extérieure dans cette catastrophe.
Le rapport écarte l'éventualité d'un problème technique, donc ça c'est important. Il ne soutient en rien la thèse qui a quand même été très entendue dans les médias selon laquelle le commandant de bord Zahar Richah aurait commis un acte suicidaire, et il clarifie que, vous vous souvenez sans doute de l'épisode où on a parlé du simulateur de vol du pilote. Moi, ça fait longtemps que j'avais eu accès au dossier et que j'avais expliqué qu'il n'y avait rien de compromettant là-dedans, mais ça a été interprété différemment. Ça, ils le redisent très clairement. Donc, le pilote est écarté de tout soupçon, le problème technique est écarté de tout soupçon. Et alors, il y a un nouvel élément que je trouve extrêmement troublant et intéressant, c'est qu'ils indiquent ne pas exclure l'intervention d'une tierce partie. Et ça, c'est une notion qui est tout à fait nouvelle. Quand bien même on retrouverait les deux boîtes noires, celles qui enregistrent les deux dernières heures de vol de voix dans le cockpit et celles qui enregistrent toutes les données techniques du vol, on va retrouver la route de l'avion, oui. Mais par contre, c'est pas ça qui va expliquer ce qui s'est passé et quelle était l'intention de ce tournement qui n'a ni queue ni tête. Parce que le plus gros problème de la version officielle, c'est qu'elle ne correspond à aucun schéma logique et qu'elle n'a aucun sens.
Florence de Changy, journaliste et auteure du livre intitulé « Le vol MH370 n'a pas disparu ». Les pays de la Corne de l'Afrique paraissent ouvrir une nouvelle page apaisée de leur histoire tourmentée. L'Érythrée et la Somalie viennent de signer un accord qui rétablit leurs relations diplomatiques. On pourrait parler d'ailleurs d'engrenage vertueux puisque cela intervient 3 semaines après le dégel des relations entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Ces pays de l'Est africain ont joué une sorte de billard sanglant à 3 bandes et cela pendant des décennies. L'Érythrée est par ailleurs soumise à de lourdes sanctions de l'ONU pour son soutien présumé aux islamistes Chebab affiliés à Al-Qaïda. Une situation chaotique qui a conduit des dizaines de milliers d'Érythréens à fuir leur pays et à constituer le plus fort contingent de migrants africains. Sur cet apaisement en perspective, on écoute Roland Marchal, il est chargé de recherche au CNRS, rédacteur en chef de la revue Politique africaine, c'est un spécialiste de la Corne de l'Afrique.
On peut considérer que c'est la fin d'une époque, bon, en sachant que l'ouverture de l'Érythrée, elle est aussi liée à ce qui va se passer en Éthiopie. Le Premier ministre éthiopien a pris des risques considérables. On va voir s'il est capable de tenir toutes les promesses qu'il a faites.
C'est lui qui donne l'impulsion de tout ce qui est en train de se passer ?
Indirectement, oui. Indirectement. Il ne faut pas croire que c'est lui le grand donneur d'ordre, comme les Érythréens le croyaient un peu à une certaine période. Mais le fait que l'Éthiopie affirme sa volonté de changer, affirme une volonté d'ouverture politique et une volonté de normalisation régionale, en essayant de démontrer une capacité d'écoute vis-à-vis des pays de la région, ça a un impact très fort. Et salutaire pour l'ensemble de la région, hein, donc il faut saluer le Premier ministre éthiopien pour ça, mais en même temps il faut bien voir toute la fragilité du processus actuel.
Est-ce qu'on a affaire à des bouleversements ?
Il faut bien voir que c'est une région qui a vécu dans la guerre pendant une 20aine d'années, et donc ça a stabilisé un certain ordre aussi, des gens qui en ont bénéficié, des gens qui ont effectivement beaucoup perdu à cause de ça. Et il faut savoir si maintenant, dans la nouvelle, dans le niveau nouveau dispositif régional, eh bien, tout le monde sera un peu gagnant. Il y a quelques motifs de croire que les choses peuvent aller un peu mieux après avoir été très mal pendant aussi longtemps.
Et oui, parce que Éthiopie, Érythrée, Somalie, et puis bientôt Djibouti.
Oui, ça va avoir un impact au Soudan, ça va avoir un impact au Sud-Soudan. Il faut se rendre compte que là, la justification des régimes autoritaires dans la région va être quand même un peu bousculée. Encore une fois, rien n'est fait, mais on peut quand même commencer à espérer que cette glaciation qui a existé dans l'après-guerre froide, tragiquement, elles prennent fin pour quelque chose qui soit plus favorable aux populations.
Voilà, sur cette nouvelle donne dans la Corne de l'Afrique, les précisions de Roland Marchal, interrogé pour France Culture par Mathieu Laurent. Le Premier ministre grec s'est rendu ce matin dans les localités ravagées par les flammes à l'est d'Athènes, les villes de Mati et Raffina. Il l'a fait d'ailleurs en toute discrétion, sans prévenir les médias, pour éviter visiblement les manifestations de colère des habitants. Les incendies ont fait, selon un bilan toujours provisoire, en Grèce, 91 morts. La rencontre avec des élus et des citoyens ce matin a duré un peu plus d'une heure. La Californie, à son tour, subit une fois de plus de gigantesques incendies favorisés par une sécheresse chronique. 17 foyers qui ont détruit près de 100 000 hectares. 38 000 personnes ont dû être évacuées du comté de Shasta, au nord de la Californie. 12 000 pompiers sont mobilisés. La fronde des taxis espagnols contre la concurrence des VTC, véhicules de tourisme avec chauffeur, s'étend maintenant dans toute la péninsule. Partie ce week-end de Madrid et Barcelone, et l'ESM à Valence, Séville ou Saragosse. À Barcelone, l'une des principales artères est occupée depuis 3 jours maintenant par des centaines de taxis. Ils réclament, Marie-Hélène Ballestero, la limitation des licences accordées aux VTC.
En effet, Ezekiel, la grève et la fronde se sont étendues, comme vous le disiez, ces dernières heures à travers le pays. La plupart des régions espagnoles et surtout les principales villes sont désormais touchées par cette grève de taxi, comme vous le disiez. Ils dénoncent la concurrence déloyale, d'après eux, des véhicules de tourisme avec chauffeur, les VTC. Alors que réclame concrètement le secteur du taxi espagnol ? Eh bien, en premier lieu, la limitation des licences accordées aux VTC, notamment de Uber et de l'entreprise espagnole Cabify, soit une licence licences de VTC pour 30 licences de taxi. Il souhaite également que les régions espagnoles soient désormais compétentes en la matière et non plus le ministère de l'équipement. Et c'est justement dans ce ministère de l'équipement qu'a eu lieu aujourd'hui une réunion qui aura duré 4 heures entre les représentants du gouvernement espagnol et ceux du secteur du taxi. Alors pour l'instant, ils ne sont pas encore parvenus à un accord. La grève est donc maintenue, même si le ministère de l'équipement s'est engagé à approuver le 14 septembre en Conseil des ministres un royal décret avec différentes mesures et notamment cette limitation des licences accordées au VTC, soit une pour 30 licences de taxi. Les associations de taxi veulent désormais que cette promesse devienne un engagement écrit. Le ministère de l'équipement devrait d'ailleurs publier cet après-midi un communiqué de presse dans ce sens. Quant aux sociétés de VTC, eh bien, elles ont durement critiqué la grève des taxis, notamment à cause des agressions contre certains de leurs conducteurs. Demain, elles sont attendues à leur tour au ministère de l'équipement à Madrid.
Merci beaucoup Marie-Hélène Ballestero en direct de Madrid. 1200 réfugiés syriens ont quitté le Liban ce week-end pour retourner dans leur pays depuis le début de la guerre. Rappelons que plus d'un million de Syriens ont fui les combats pour se réfugier au Liban. Le haut commissaire aux Nations Unies pour les réfugiés estime d'ailleurs que ce retour est très prématuré compte tenu de la situation trop instable et dangereuse en Syrie. 500 randonneurs, parmi lesquels des Français, sont bloqués en ce moment sur l'île indonésienne de Lombok au lendemain d'un tremblement de terre qui a entre autres provoqué des glissements de terrain. Ils sont coincés en ce moment sur le mont Rinjani, un volcan très fréquenté par les randonneurs. Le séisme de magnitude 6,4 a fait 16 morts et détruit des centaines de maisons. Le pape François vient d'accepter aujourd'hui la démission de l'archevêque australien Philip Wilson, condamné à 1 an de prison dans son pays pour avoir couvert des actes de pédophilie commis par un prêtre, des faits qui remontent à 1976. Rappelons qu'il y a à peine 2 jours de cela, le souverain pontife avait également acté la démission du cardinal américain Theodore McCarrick, déjà interdit d'exercer son ministère après des accusations d'abus sexuels aux États-Unis. De quoi ravir maintenant les amateurs de science-fiction? Une étude publiée ce mois-ci par une revue scientifique internationale affirme qu'une équipe de chercheurs américains et russes a réussi à ramener à la vie des vers microscopiques, sur le mode Jurassic Park mais en miniature. Vieux de plusieurs dizaines de milliers d'années, les deux vers de la famille des nématodes étaient congelés dans le permafrost sibérien, c'est-à-dire un sol gelé en permanence. De toutes petites créatures ressuscitées, Elia Bergel, qui nous viennent du fond des âges.
Oui, cela pourrait être un film appelé « Les vers au bois dormant ». Deux lombriques microscopiques sont restées piégées dans le permafrost, ce sol tout le temps gelé, pendant 32 000 et 41 700 ans. Ce sont donc officiellement les deux plus vieux animaux sur Terre. Ces créatures, dont la taille n'excède pas quelques micromètres, sont revenues à la vie après avoir été décongelées en laboratoire dans la région de Moscou. Les deux vers ont été placés dans une boîte de pétri à 20 degrés avec de la nourriture. Ils ont alors montré des signes de vie, puis se sont remis à manger tranquillement, comme si rien ne s'était passé. Alors pour survivre aussi longtemps dans des conditions extrêmes, les deux animaux auraient eu recours à la cryptobiose, une forme extrême d'hibernation qui maintient le métabolisme à 0,01% de son activité habituelle. Ce n'est pas la première fois que le permafrost donne lieu à d'incroyables trouvailles. En 2012, des chercheurs avaient réussi à faire repousser une plante congelée pendant 30 000 ans. Ces découvertes devraient servir à faire progresser les recherches dans le domaine de la cryogénisation humaine. De quoi, Ézéchiel, peut-être bientôt vous endormir pour les 42 000 prochaines années.
Oui, pas sûr, Élie, que j'aimerais voir ce qu'il en est dans 42 000 ans. Chaque jour suffit sa peine. Merci beaucoup pour cette stupéfiante révélation de chercheurs américains et russes. La météo, les 9 départements du Sud-Est sont en vigilance orange canicule. Une dizaine d'autres sont également en vigilance orange, cette fois-ci aux orages. Demain, les températures seront comprises entre 36 et 39 degrés. La moyenne sera comprise, quant à elle, sur l'ensemble du territoire, entre 28 et 32 degrés. Il va donc continuer à faire très chaud avec des risques d'orages qui concernent surtout, je vous le rappelle, l'est et le sud-est de notre pays. C'est la fin de cette édition préparée avec Mathilde Julien. Vous retrouverez tout à l'heure Sébastien Berriot aux manettes du journal de 22h. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur France Culture.